Enfant du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles
et allumez en eux le feu de votre amour.
Envoyez votre Esprit Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions. Ô Dieu qui avez aidé, envoyez votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Dieu vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler un peu plus des devoirs des parents. Donc, ça, en fait, on n'a pas assez de temps pour tout faire, mais il faudrait faire plusieurs parties. Le devoir des maris, le devoir des épouses, le devoir des parents par rapport aux enfants. Je vous avais expliqué en début de ces petites conférences que tous ceux qui sont en charge d'âme, et les parents sont en charge d'âme, donc pour vous, fiancés, vous êtes potentiellement en charge d'âme, je veux dire, c'est comme ça. Et les parents qui sont en charge d'âme ont le devoir de tous ceux qui sont en charge. À savoir le triple devoir de magistère, ministère, gouvernement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ce qui est triste, c'est que pratiquement, on n'en parle jamais. On dit que des tas d'examens de conscience, il n'y a pas un seul mot sur la question. Donc, trois devoirs, enseigner, sanctifier et gouverner. Magistère, ministère, gouvernement. À tel point que quelqu'un qui a des parents qui refuseraient sciemment d'utiliser les grâces du sacrement de mariage pour enseigner, gouverner et sanctifier leurs enfants pécherait gravement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bon français que le bon Dieu est obligé de vous donner, par le sacrement de mariage que vous recevez, le bon Dieu est obligé de vous donner les grâces dont vous avez besoin pour vous occuper correctement de vos enfants. De la même façon, si vous voulez, c'est une analogie, que pour nous prêtres, le bon Dieu, le jour de notre ordination sacerdotale, est aussi obligé de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour gouverner, sanctifier et enseigner nos fidèles. Donc ce serait un refus de grâce, c'est que de dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, je n'y arrive pas, c'est trop difficile pour moi. Le bon Dieu ne peut pas demander quelque chose d'impossible. Si le bon Dieu demande quelque chose d'impossible, il serait injuste. Or, Dieu étant Dieu, ne peut pas être injuste. Et ça, faire attention, parce que c'est des blasphèmes, littéralement. Et les gens, c'est devenu tellement fréquent que j'en sens même plus compte qu'ils blasphèment. Vous voyez, quand par exemple des parents me disent, ça j'ai entendu ça très souvent, on n'y arrive plus avec les enfants. Donc on abandonne. C'est un blasphème. C'est un blasphème parce que ça veut dire Dieu ne m'a pas donné les grâces dont j'ai besoin, conséquemment il m'a demandé quelque chose d'impossible. Vous voyez, rappelez-vous l'exemple que je donne toujours quand je prêche ces exercices, parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé, et je rencontre très souvent, bon, il faut avouer, beaucoup moins dans la fraternité. Depuis que j'ai quitté la fraternité Saint-Pédis, mais dans la fraternité Saint-Pédis, dans les milieux libéraux, je dirais les milieux traditionnalistes libéraux, la fraternité c'est en plein dedans, on rencontre ces cas-là très 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 souvent. L'abandon des parents. Je vous donne toujours comme exemple, un petit exemple qui m'est arrivé plusieurs fois. Je suis à table avec une famille, je suis invité dans une famille pour un soir, et j'y vais pour connaître un peu les familles, j'aime bien faire ça. Et puis, un enfant qui est à table avec les adultes, donc avec ses parents plus le prêtre qui est là, quitte la table sans permission. C'est très fréquent. Il sève, il s'en va jouer dans sa chambre. Alors, le père devant moi, je pense parce que je suis là, sinon à mon avis rien n'aurait été dit, le père devant moi crie « Jeannot revient à table ». Mais Jeannot s'en fiche, continue de jouer dans sa chambre. Alors le père, l'homme me regarde, est encore un peu plus gêné, donc il hausse le ton une deuxième fois. Jeannot, viens à table. Le gamin s'en fout et continue de jouer dans sa chambre tranquillement. Alors, c'est amusant et triste en même temps. Je vois le père la mère qui regarde pour ne pas s'emmêler directement. Le père qui se rassoit et qui dit, avec un gros soupir, il est très désobéissant. Et à ce moment-là, je fais toujours la même chose. Je dis, oui, il y a quelqu'un qui a besoin d'une fessée dans cette maison. Et le papa me dit, oh, vous avez raison, il a besoin d'une fessée. Et je suis obligé de dire, c'est pas du fils dont je parlais. Vous voyez ? Alors, à ce moment, le papa devient tout rouge. En général, je ne suis plus jamais réinvité dans la famille. Bon, mais vous voyez, c'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, que les parents ne comprennent pas, c'est que le péché du père est bien plus grave que le péché de l'enfant. Parce que pour l'enfant, c'est un péché véniel de désobéissance. Vous comprenez ? Pour le papa, ça manque en grave à son devoir d'État. Parce que le papa est en charge de l'obéissance des enfants. C'est lui qui est en charge de l'éducation des enfants. Donc il manque gravement à son devoir d'enseigner et de gouverner ses enfants. Donc l'enfant va commencer à grandir comme une arbre sauvage, en faire absolument qu'à sa tête toute la journée. S'il commence à en faire qu'à sa tête à 6 ans, pensez ce qui va se passer quand il aura 16 ou 17, il va devenir un petit révolutionnaire, ce sera la faute des parents. Et puis après, les parents viendront pleurer des larmes de crocodile quand les gamins auront 20 ou 25 ans, où les enfants sont devenus des jeunes adultes. Pourquoi ? Parce que l'enfant a perdu la foi, bien sûr. Et les parents ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont responsables de ça. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le pouvoir que vous a donné vos enfants, que vous donne le bon Dieu sur vos enfants, par le sacrement, les enfants à venir bien sûr, par le sacrement de mariage, est un pouvoir que vous avez l'obligation grave d'utiliser. C'est un péché grave, et je mesure mes hauts, c'est un péché grave pour des parents de ne pas utiliser le pouvoir que le bon Dieu leur donne pour éduquer leurs enfants. Encore une fois, le bon Dieu est obligé de vous donner les grâces pour vos enfants. Alors quand je prends l'exemple des prêtres, les parents comprennent tout de suite. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'appliquer eux-mêmes. Imaginez un prêtre qui dise, tous mes paroissiens vivent tranquillement dans le péché mortel, tant pis, moi je ne peux plus les changer, c'est trop tard. Le prêtre est coupable. Le prêtre est coupable parce qu'il doit prendre les moyens pour faire plus de pénitence, utiliser plus de sacrements, faire quelque chose pour essayer de convertir sa paroisse. Et s'il ne fait rien, il est coupable en premier lieu avant les fidèles. Vous suivez ? C'est pareil pour les parents. Si les parents ne font rien pour éduquer leurs enfants, que les enfants poussent tout seuls, sans aucune supervision des parents, ce sont les parents qui sont en faute, beaucoup plus que les enfants. Encore une fois, dans ce cas, l'exemple que je viens de vous donner, je pense qu'il n'y a que péché véniel pour l'enfant, parce qu'il n'y a pas vraiment matière grave. Il y a matière grave en puissance, mais pas en acte. Par contre, pour les parents, il y a matière grave en acte. Ça veut dire que les parents, y quitte nous, dans ce cas précis, ne refusent de remplir leur devoir d'État. Ça, on le voit constamment, les gens qui sont complètement dépassés par les enfants et qui finalement laissent les enfants faire absolument ce qu'ils veulent. J'ai eu encore un cas il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, un fidèle que je connais, qui reçoivent, bon, par charité, qui reçoivent des enfants, des petits-enfants qui ont 10-12 ans, dans leur maison, pour aider les parents, parce qu'ils sont dans une école, les parents habitent trop loin, donc ils ont demandé à les amis de recevoir les enfants. Donc toute la semaine, ces enfants sont dans cette famille, mélangés aux enfants de la famille. Et les enfants, donc, qui viennent d'une autre famille, considèrent vraiment la maison d'accueil dans laquelle ils sont reçus comme une auberge. Ils disent ni bonjour, ni merci, ni au revoir, rien du tout. Rien du tout. Alors évidemment, les parents vu ça, on dit, attendez, mais c'est quoi ça? Ils ont commencé à vouloir exiger, évidemment, que les enfants, qui ne sont même pas dans leur propre famille, disent bonjour, disent bonsoir, disent merci, etc. Eh bien, ils sont heurtés à un refus d'obstacle. Un refus d'obstacle. Tout pourquoi? Parce que, tout simplement, les parents des deux enfants difficiles, ou trois enfants difficiles, ont dit, ça fait longtemps qu'on a abandonné parce qu'on n'arrive plus à se faire ouvrir. Oui, donc il y a un refus d'utiliser les grâces que le bon Dieu nous donne. Donc, si vous voulez, c'est toute proportion gardée, un peu comme un malade qui refuse d'utiliser les médicaments qu'on lui donne, qu'un médecin compétent lui donne, et qui se plaint de ne pas guérir parce qu'il ne prend pas les médicaments qui lui sont imposés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, rappelez-vous la formule, ce qui est très vrai, c'est qu'un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Donc s'il n'a pas pris les habitudes d'obéissance à 5 ans, c'est fini, terminé. Il sera toujours un révolté, vous pourrez très très difficilement le rattraper, ou alors il faudra vraiment des grâces de conversion que le bon Dieu ne donne pas à tout le monde. Et donc, encore une fois, il ne faut pas attendre. L'exemple qu'on prend classiquement, qu'on trouve dans les pères de l'Église. Les pères de l'Église, pour expliquer ce point-là, utilisaient toujours un exemple, toujours le même. Ils disaient, imaginez un maître des novices dans un couvent de moines. Bon. Donc, le maître des novices, un prêtre âgé d'expérience, un moine d'expérience, donc est en charge de l'apprentissage de la vie spirituelle aux jeunes moines qui viennent d'arriver. Dans le couvent, on appelle ça le maître des novices, le maître des postulants. Donc, il s'occupe de former à la vie spirituelle les jeunes. Donc, pour expliquer ce point-là, il prend tous les jeunes qui sont sous sa charge et puis il les emmène dans le jardin du monastère. Bon. Et puis, il trouve dans le jardin du monastère, sur un parterre de... Du jardin, par exemple, une mauvaise herbe qui est grande comme ça, 4 cm de haut. Donc il dit à un des moines, vous l'arrachez. Donc le moine arrive, il prend la belle herbe, il la tire, elle s'arrache facilement. Bon. Et puis il continue, il fait 50 mètres de plus, et puis à un autre endroit, il trouve une mauvaise herbe qui, elle, fait déjà 50 cm de haut. Il dit à un autre moine, vous prenez cette herbe, vous l'arrachez. Et le moine va y arriver, mais il a plus de mains, il est obligé d'y mettre les deux mains pour arracher l'herbe. Après, il continue, et puis il trouve un petit arbuste qui pousse là où il ne faut pas, et qui fait déjà un bon mètre de haut. Donc il dit au moine, maintenant arrachez cet arbuste. Ils sont obligés de s'y mettre à 3 ou 4 pour arracher l'arbuste. Et après, ils sortent de la clôture du monastère, et ils vont dans la forêt qui est juste à côté, et ils s'arrêtent devant un chêne majestueux qui fait des mètres de diamètre. Et ils disent au moine, maintenant vous m'arrachez ça. Les moines le regardent avec des virons, on ne peut pas arracher ce truc-là, c'est beaucoup trop gros. Et donc, il prenait ça comme exemple, on trouve ça dans Cassien, il prenait ça comme exemple pour expliquer, voilà ce qui se passe dans une âme dans laquelle les herbes folles n'ont pas été arrachées. Et si on ne donne pas les bonnes habitudes au début, les habitudes sont perdues. Un autre exemple qu'on peut prendre, prenez une feuille de papier, par exemple. Vous la pliez en deux, soigneusement, en marquant bien le pli, et bien, le pli reste tout le temps. Vous ne pourrez pratiquement plus jamais enlever sur la feuille de papier la marque du pli. Elle est là, elle reste. Et les pères utilisaient aussi cet exemple souvent pour expliquer que lorsqu'une âme est marquée par le travail de la raison, le travail de la grâce, eh bien, on ne peut plus enlever cette marque. Mais encore une fois, on le voit très bien, nous, avec les convertis. Les convertis sont obligés, si vous voulez, d'emmagasiner en l'espace de quelques mois ce qu'un adulte dans une famille catholique va emmagasiner en 20 ans. Eh bien, il manque quelque chose. Il manquera toujours quelque chose, le fait qu'ils n'ont pas eu l'apprentissage de la vertu. Tout leur tombe, en quelque sorte, sur le dos d'un seul coup, quand ils ont 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, au moment de leur conversion. De grâce, le bon Dieu, la bonne leur donne des grâces. Ils ont souvent beaucoup de mal. D'où l'importance de donner aux enfants ce qu'on appelle les vertus passives. Vous savez que les vertus passives sont les vertus qui sont méprisées souverainement dans le monde moderne. Vous savez sans doute que le pape Léon XIII a dû faire une encyclique justement pour condamner les gens modernes de son temps. Donc on est à la fin du 19e siècle, pour condamner les gens de son temps qui voulaient toujours mettre en valeur les vertus actives et qui méprisait les vertus passives. C'est très intéressant de savoir qu'il a appelé cette hérésie, parce que c'est en une, donc une hérésie qui méprise les vertus actives, les vertus passives, et qui ne pousse que les vertus actives. Il a appelé ça l'américanisme. La condamnation à l'américanisme par le pape Léon XIII, autour des années, j'ai oublié de vérifier la date, 1890-95, par là. Et c'est tout à fait ça. Et on voyait très bien ça aux États-Unis, un pays que je connais très bien, eh bien, où les parents ne poussaient que les vertus actives, les vertus qui se voient extérieurement, et avaient un mépris souverain pour les vertus passives. Or, par exemple, dans la vie religieuse et dans l'apprentissage des enfants avant qu'ils deviennent des adultes, les vertus passives sont absolument fondamentales. Quelle est la reine des vertus passives pour un enfant ? Quelle est la vertu la plus importante pour un enfant ?
L'obéissance.
l'obéissance va entraîner une vertu qui s'appelle la vertu de docilité. Et je me rappelle très bien les explications magnifiques que nous avait données Mgr Lafèvre sur la vertu de docilité. Il nous a souvent prêché là-dessus. Et il disait, et là il s'adressait non pas à des enfants, il s'adressait à des jeunes adultes qui avaient entre 20 et 25 ans, il nous disait, la première vertu que je veux voir dans un séminariste, c'est pas la vertu de piété, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ni la vertu de studiosité pour étudier, c'est la vertu, nous disait-il, de docilité. Et en quoi consiste cette vertu? La vertu de docilité, c'est la vertu par laquelle je reconnais avoir besoin d'être formé. Donc c'est une fille de la vertu d'humilité. Donc si vous voulez, les pères expliquent comme ça, Dieu est un jardinier, où l'âme est, pour être considérée comme un jardin, il va falloir planter des bonnes fleurs, ou des bonnes herbes, des bons légumes dans ce jardin. Bon. Et le terreau dans lequel vont devoir grandir les vertus, ce terreau, c'est le terreau de l'humilité. Mais la première fleur de l'humilité, c'est la docilité. De l'humilité à la base, ensuite qui va entraîner la docilité pour toutes les vertus passives, centrées sur l'obéissance, et en conséquence, si vous voulez, de cette espèce de jeu de fonder, c'est pas un jeu, d'action, de mettre les fondations en place dans le jardin, la fleur qui va fleurir tout à fait au sommet, donc le résultat pratique de la pratique de cette vertu d'humilité, d'obéissance, de docilité, c'est la fidélité. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas la vertu fondamentale d'humilité, docilité et d'obéissance, les trois vertus fondamentales, si je n'ai pas ces vertus-là, je n'aurai pas la fidélité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants n'ont jamais appris à obéir, et donc ils perdent la foi. Parce que la vertu le vice d'infidélité, c'est ça, c'est la perte de la foi. Faire attention à cette traduction de ce mot qui est très, très important. Souvent, les gens comprennent de travers. Rappelez-vous l'oraison du Vendredi Saint à propos des Juifs perfides. Ce n'est pas du tout quelque chose de négatif dans le sens de Juifs qui sont malhonnêtes. Malhonnêtes, ce n'est pas ça. Perfides, c'est ceux qui ont perdu la foi. Per fides. Fides en latin, c'est la foi. Donc le juif perfide, c'est le juif qui n'a pas la foi. D'accord? Et bien là, c'est un peu pareil. Si on ne donne pas aux enfants, on n'ouvre pas pour eux la porte pour les grâces dont ils ont besoin, les enfants vont tous perdre la foi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand des enfants perdent la foi, ou ne la conservent pas à cause du libéralisme des parents, ce sont les parents qui sont d'abord responsables. Et ça, c'est énorme. C'est un devoir d'État gravissime de la part des parents d'utiliser les grâces d'État qu'ils ont reçues par le sacrement de mariage pour justement éduquer convenablement leurs enfants. Et donc, vous n'avez absolument pas le droit jamais de dire on n'y arrive plus, donc on laisse ses enfants faire n'importe quoi. Ça, j'ai vu ça dans des tas de familles, y compris dans la tradition, surtout dans la fraternité Saint-Bélice. Les enfants faisaient du n'importe quoi quand ils avaient 5-6 ans. Résultat, à 17-18 ans, les garçons et les filles dans ces familles faisaient aussi du n'importe quoi. Et les parents ne disaient plus rien. Et à ce moment-là, les parents sont responsables. Donc je voudrais un peu insister là-dessus parce que c'est très important. Donc je reprends les vertus de base, donc l'humilité, la docilité et l'obéissance. Je pense que ce qui mène tout, c'est la vertu d'obéissance. Il faut que vous mettiez dans la tête qu'un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera un adulte incapable de commander. Si les adultes d'aujourd'hui sont devenus, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux dans le milieu moderne, sont devenus des nouilles molles, sans consistance, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme gamin. Et non seulement il faut que vous appreniez à vos enfants à obéir, mais il faut leur apprendre une obéissance véritable. C'est-à-dire que si une maman donne un ordre à son petit qui a 5 ans et que l'enfant met 5 minutes avant d'obéir, il ne faut pas que l'enfant croie qu'il a obéi. Il a désobéi et il est coupable d'un péché de désobéissance. Maman dit « Jeannot vient ici » et Jeannot continue de jouer avec son train électrique pendant 5 minutes avant de se lever et d'arriver en maugréant. Il ne faut pas que l'enfant dise « Bon, ben, il est finalement venu ». Non, il a désobéi. Et donc, quand le gamin arrive au bout de 5 minutes en maugréant, il faut dire à l'enfant, pourquoi as-tu désobéi? Je n'ai pas désobéi, j'arrive. Non, parce que ça fait 5 minutes que tu devrais être là. Et il faut faire la même chose avec l'enfant qui obéit tout de suite et qui arrive en maugréant. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Et c'est toujours sur moi que ça tombe? Et pourquoi c'est jamais les autres? C'est comment sont les enfants? Bon, et là, pareil. Il faut interrompre l'enfant, dire, tu as désobéi. Mais j'arrive, je suis là tout de suite. Non, parce que tu viens en râlant. Donc, littéralement, faire repartir l'enfant dans sa chambre, et tu reviens tout de suite, et avec le sourire. Parce que quand ta maman te demande quelque chose, c'est bon Dieu qui demande quelque chose. Ça, on explique ça aux enfants tout de suite. Hein. Les enfants, ils comprennent. J'explique aux petits, quand je confesse les petits, attention, à chaque fois que vous désobéissez à vos parents, vous désobéissez à bon Dieu. Donc, il y a un devoir gravissime pour les parents d'apprendre aux enfants à obéir. Et Mgr Meffel nous l'avait dit plusieurs fois, lui qui était la génération au-dessus de la mienne, donc il est bien plus âgé que moi, donc c'est la génération, si vous voulez, un peu de mes parents, et bien il nous disait, nous avons de plus en plus de mal au séminaire parce que nous avons devant nous des jeunes de bonne volonté qui n'ont jamais appris à obéir à la maison. Et sur le plan moral, il y a des conséquences énormes. Et on disait aussi, nous avons devant nous des jeunes qui ne savent plus travailler tout seul. Et il disait, par exemple, au séminaire, on a beaucoup de travail à faire personnellement. On avait un cours dogmatique, le professeur à encaisser, en quelque sorte, on prenait des notes. Et après, il fallait, dans notre cellule, tout seul, retravailler ce cours pour pouvoir bien comprendre. Eh bien, Monseigneur le disait, beaucoup des jeunes séminaristes du temps moderne sont incapables de faire ça par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura jamais appris. Eh bien, c'est pareil pour la vie spirituelle et la vie intellectuelle. Donc, si on n'a pas appris aux enfants à obéir, ils auront un mal fou à remplir leur devoir d'État. Alors, il y a une double formation à donner. Il n'y a pas simplement une formation spirituelle à donner, c'est-à-dire apprendre leur prière aux enfants, apprendre que les enfants sachent se confesser très vite. Bien sûr, ça fait partie du devoir des parents, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi leur donner une formation intellectuelle. Donc il y a un double devoir par rapport à la formation au niveau du magistère. Magistère et ministère sont unis, attention, on sépare ça pour des raisons didactiques, mais en fait, c'est des choses qui sont communes. Devoir du magistère, c'est l'enseignement, devoir du ministère, c'est la sanctification, mais les deux sont liés. D'accord ? Donc, il y a un devoir grave, pas simplement d'apprendre aux enfants à prier, mais un devoir grave d'apprendre aux enfants à utiliser correctement leur intelligence. Hein ? Utiliser correctement leur intelligence, que Mgr Lefebvre traduisait pour nous en disant « il faut apprendre à vos fidèles à penser droit ». Donc il y a un devoir d'état gravissime de la part des parents d'apprendre à leurs enfants à penser correctement. Et les enfants n'ont pas apprendre à penser correctement quand ils ont 20 ans, c'est beaucoup trop tard, il faut leur apprendre quand ils sont tout petits. Donc dès qu'ils sont capables de raisonner un petit peu, il faut apprendre aux enfants à raisonner droit. Et donc les aider, si vous voulez, dans l'application du catéchisme, pour qu'ils apprennent à comprendre quand ils font des choses qui ne sont pas correctes, leur apprendre à raisonner sur certains sujets, oui, bon, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr. Mais c'est à mon avis capital pour les parents d'enseigner à leurs enfants comment penser droit. Donc à leur donner l'usage normal de leur intelligence. Et là, encore une fois, les responsabilités énormes. Des meilleures façons pour avoir des enfants qui sont bêtes, ou qui sont, non pas qui n'ont pas d'intelligence, mais qui sont incapables de l'utiliser, c'est leur laisser accès constamment aux jeux vidéo, par exemple. Les enfants qui ont un accès libre aux jeux vidéo, ils y passent des heures et des heures et des heures par jour, eh bien, non, ils seront incapables de penser droit, parce qu'on n'aura jamais appris à utiliser l'intelligence correctement. Vous voyez, c'est un autre dégât énorme, et ça, les parents s'en rendent absolument pas compte. Quand on leur en parle, ils sourient gentiment et poliment, mais en gros, on sait très bien ce qu'ils pensent, ils le pensent tellement fort que ça s'entend, ils sont en train de se dire, de quoi vous mêlez, monsieur l'abbé? En gros, c'est ça. Par exemple, les enfants de 8-10 ans qui ont déjà un téléphone portable. Bon, du coup, ils passent un temps considérable à s'envoyer des textos à longueur de journée, au lieu de remplir une demande d'État. Vous voyez? Donc, il faut encore une fois, là, que les parents travaillent. Donc, si on va parler un petit peu de ces trois devoirs, donc magistère, ministère, gouvernement, on va commencer par le dernier parce que c'est plus pratique. Le gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, c'est l'éducation de l'obéissance, tout simplement. On gouverne les enfants pour qu'ils puissent un jour se gouverner eux-mêmes. On gouverne les enfants pour qu'ils puissent un jour se gouverner eux-mêmes et ayant appris à se gouverner eux-mêmes, ils puissent gouverner les autres. Et donc il y a trois étapes. Première étape, on dit aux enfants ce qu'il faut faire. Deuxième étape, l'enfant apprend à se gouverner lui-même en devenant un adolescent. Troisième étape, l'adolescent étant devenu un adulte, va devoir gouverner les autres, à savoir ses enfants. Et qu'est-ce qu'on voit? On le voit très souvent dans les difficultés qu'on a avec certains fidèles. On le voit très bien, beaucoup de fidèles sont incapables de gouverner leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris à la maison. On ne leur a jamais appris à gouverner un enfant. Vous voyez, beaucoup de choses se passent, si vous voulez, dans les esprits, on dit un peu par osmose. C'est de même qu'une petite fille dans une famille qui voit sa maman s'occuper du bébé, et ben elle va apprendre son rôle de future mère de famille. D'accord ? De la même façon qu'un jeune garçon de 10 ans qui travaille avec son père à l'atelier va apprendre petit à petit un certain nombre de choses qu'un père de famille doit savoir. Bon. Et si on ne donne pas cet enseignement quand l'enfant a 8-10 ans, quand est-ce que vous allez lui donner ? Quand il a 15-20 ans, c'est trop tard. Il faut que ça soit au début. Donc le premier rôle, c'est le gouvernement qui est entièrement fondé sur l'obéissance. Donc tombez pas dans le panneau qui consiste à dire « l'enfant va apprendre tout seul ». C'est faux, l'enfant n'apprend pas tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il est péché originel. Donc il y a le devoir de docilité, d'apprendre la docilité, d'apprendre l'obéissance, et d'apprendre l'obéissance immédiate. Ça c'est très rare. Souvent les parents n'enseignent pas l'obéissance aux enfants, ou ils enseignent une obéissance imparfaite. Le problème c'est que plus on descend la génération, plus l'obéissance devient parfaite, et puis au bout de 3-4 générations, plus l'obéissance du tout. Ça, on le voit. Combien de familles, j'ai vu ça constamment, vous savez aussi, vous connaissez ces exemples de vos propres familles, combien de familles qui étaient encore des familles d'élite il y a encore 50 ans, déjà 2-3 générations après, c'est pratiquement fini, terminé. Je vois dans ma propre famille, où il y avait des arrière-grands-pères ou des grands-pères qui étaient des gens d'élite, sur plan intellectuel, sur plan spirituel, sur plan familial, et puis qui n'ont pas pu transmettre, ou parce qu'ils sont morts trop tôt, ou parce que la veuve, souvent c'est le cas, moi je vois par exemple dans ma famille c'était ça, j'avais un grand-père qui était vraiment un catholique du syllabus, un catholique très fort dans la doctrine, mais qui est mort très tôt, il avait la cinquantaine. Eh bien, sa femme est restée veuve dans toute sa vie, elle avait 12 enfants, elle n'a pas su transmettre, parce que le mari est mort trop tôt. Elle n'a pas su transmettre, et résultat des courses, déjà au niveau des enfants, il y a beaucoup, beaucoup de casse, et après, quand on passe à la génération après, c'est fini, terminé, pratiquement plus de catholiques. Ils ont tous perdu la foi. Vous voyez, donc, il ne faut pas oublier qu'au moment du jugement, ça c'est des choses qu'on comprendra bien au moment du jugement général. Au moment du jugement général, on comprendra les conséquences de nos faiblesses. Donc, vous voyez, c'est des choses dont il faut que les fiancés parlent ensemble pour se préparer au mariage. Donc, apprendre aux enfants à obéir, et obéir immédiatement, obéir sans râler, et obéir avec le sourire. Il faut donc expliquer aux enfants, l'obéissance est un devoir, et c'est votre moyen de sanctification. Un enfant qui ne sait pas obéir, encore une fois, serait incapable de commander. Et si on a des problèmes de commandement énormes maintenant, où les jeunes adultes ne veulent plus prendre de responsabilité, c'est terrible. Quand je parle, par exemple, avec des adultes de 20-25 ans maintenant, les jeunes adultes, dans certains milieux, pas dans les milieux où la tradition a vraiment été gardée dans les familles depuis des générations, là ça tient encore à peu près la route, mais dans les familles, si vous voulez, de convertis tardifs ou qui n'ont pas su justement suffisamment transmettre, je vois la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, dans les milieux catholiques, hein, je ne parle pas des milieux païens, c'est tout simplement d'avoir un petit travail de fonctionnaire. Un petit boulot de fonctionnaire, comme ça j'ai la paye qui arrive tous les mois, j'ai les avantages sociaux, et puis c'est tout. Il n'y a plus aucun désir, si vous voulez, de faire quelque chose de beau de sa vie. Vous voyez, et ça vient de l'éducation. Donc, travailler à ce niveau-là, au niveau de l'obéissance. Un deuxième point qui me semble très important avec l'obéissance, c'est apprendre aux enfants à participer aux travaux de la maison. Et ça s'oppose évidemment en grand au maxime moderne où l'enfant ne doit pas être imposé en quoi que ce soit. Et non, il faut imposer aux enfants une aide pour les plus petits, une aide pour la maman, etc. Donc que les adolescents, par exemple, soient habitués à la maison, d'aider spontanément les petits, d'aider spontanément les parents pour les activités correspondantes, ce qu'ils peuvent faire à leur âge, vous voyez. Et encore une fois, ce n'est pas des choses qu'ils apprennent à 20 ans. Et puis, il faut former les enfants en bon sens, parce que n'oubliez pas qu'on va en face, ils cherchent à tout détruire, et de plus en plus, ça commence déjà à arriver dans certains pays, c'est en train d'arriver en France aussi, où ils vont imposer aux enfants, les gouvernants vont imposer aux parents de laisser la liberté complète à leurs enfants, c'est-à-dire de ne plus imposer quoi que ce soit en matière religieuse, en matière intellectuelle, en matière morale à leurs enfants. Ça va être interdit sous peine de prison. C'est en train d'arriver, il ne faut pas se faire d'illusion. Vous n'aurez plus le droit, on n'aura plus le droit de par exemple, d'obliger les enfants à prier, on n'aura plus le droit d'obliger les enfants à travailler intellectuellement, à aider la maison. Et ce qu'ils font maintenant, c'est comme on a déjà arrivé dans certains pays, c'est imposer légalement, par des lois d'État, les enfants avoir constamment accès à un numéro de téléphone où ils peuvent se plaindre quand ils le veulent, de jour et de nuit, de parents qui leur obligent à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et là, vous avez intérêt à former vos enfants. Hein. Si vous ne formez pas vos enfants, l'enfant qui pique un caprice, moi j'ai connu des cas, hein. L'enfant qui pique un caprice parce qu'il ne veut pas obéir, maman lui donne un ordre, le gamin a sauté sur le téléphone, appelé ce numéro spécial pour rejoindre les services sociaux. Mes parents veulent m'obliger de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Les services sociaux ont débarqué, ont pris l'enfant. Hein. Et l'enfant s'est vite rendu compte de la bêtise qu'il avait faite. Bon, mais c'était trop tard, ils ont perdu l'enfant. Et puis après, pour récupérer les gamins, c'est pratiquement impossible, parce que ils commençaient par être fichés dans les systèmes d'État, et ils vont vous imposer constamment des assistantes sociales pour vérifier tout ce que vous faites avec les enfants. Donc il faut donner à vos enfants les convictions. Vous allez connaître, il y avait cette trilogie qui expliquait tout le temps aux parents et aux enfants, trois choses à donner aux enfants, trois vertus de l'éducateur: douceur, force, conviction. Douceur, force, conviction. La douceur, si vous voulez, la douceur de la maman, la force du papa et les convictions de la famille. Vous voyez ? Les vieux chants, j'aime bien détendre un peu avec les vieux chants countries de l'Amérique des années 60. Les premiers chants, qu'on appelait les chants cowboys, quoi. Il y en a un qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Daddy's Hand, les mains de papa. Et il est tellement beau que j'utilise quand je prêche pour la fête des pères. Le refrain dit comme ça: mon père avait des mains de velours quand je pleurais, des mains d'acier quand j'ai fait une bêtise, mais maintenant qu'il est mort, j'ai compris que dans les deux cas, mon père m'aimait. Et c'est exactement, en plus les paroles sont très bien écrites en anglais, une belle musique traditionnelle, au banjo ou au fiddle, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, faire comprendre aux enfants, parce que vos parents vous aiment, donc nous sommes exigeants. Et là, il faut c'est urgent, hein, parce que de plus en plus, moi je voyais très bien ça, moi j'ai connu peut-être un peu plus ces choses-là, parce que j'étais membre de la fraternité des Saint-Pédis pendant très longtemps, 35 ans, et les fidèles de la fraternité Saint-Pédis, en général, sont extrêmement libéraux, de plus en plus libéraux. Et on le voyait très bien, on avait le même problème avec les parents. Il y a de même que la révolution a poussé l'enfant de 5-6 ans qui reçoit un ordre d'aller immédiatement se plaindre à un numéro spécial pour pouvoir faire entrer dans le système des services sociaux et empêcher l'éducation des enfants. Les parents font la même chose après. C'est-à-dire que dès que le prêtre dit quelque chose d'un peu ferme qu'ils n'aimaient pas, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois quand j'étais prêtre dans la fraternité, dès que je faisais un sermon un peu ferme, les fidèles qui n'étaient pas contents parce qu'ils trop libéraux téléphonaient immédiatement au supérieur des districts, voire même directement au supérieur général, qui soutenait les fidèles contre le prêtre. Pratiquement à chaque fois. Et à chaque fois, c'est le prêtre qui se faisait taper sur les doigts parce qu'on était trop exigeant avec les fidèles. Pourquoi ? Parce que le fidèle, c'est celui qui donne la raquette. Et voilà, c'est la raison, c'est la véritable raison, les gars. C'est le fidèle qui donne la raquette. Donc, si vous étiez les fidèles à dos, vous aurez plus assez d'argent pour payer les frais du prieuré et tout va s'écouler. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous donne un autre exemple. Vous allez comprendre par des exemples, parce que c'est comme ça qu'on fait des révolutionnaires. Donc, quand j'étais à Lille, j'avais entre autres, c'était même avant, quand j'étais à Lille, je m'occupais d'Amiens aussi depuis Lille, et j'allais à ce moment-là, une journée, deux jours par semaine, Et à l'école de Camblin-l'Abbé, qui est une école de fraternité, que vous connaissez, vous savez, et qui était à l'époque dirigée par un prêtre, qui était un prêtre qui avait beaucoup de qualités en matière éducative, de liberté. Mais je voyais déjà les difficultés, par exemple, au niveau éducatif. Bon, entre autres, ça m'est arrivé, quand j'étais là-bas, on me demandait de faire la surveillance des dortoirs des grands, dans première terminale, seconde première terminale. Et donc, le soir, j'étais en train de marcher dans les dortoirs, en train de soi-disant de surveiller les enfants, en fait, d'essayer de dire mon chapelet en même temps. Et régulièrement, on pinçait des enfants qui s'échangeaient des CD de musique d'un lit à l'autre. Alors, les CD passaient jusqu'au lit qui est supposé recevoir le CD, et régulièrement, on faisait tomber le CD parce que c'était la nuit, hop, on arrivait à piquer le CD. Bon. Il fallait voir les CD. Hein, c'était du rock, et pas n'importe quel rock, hein, du rock vraiment, vraiment, du mauvais rock, du acid rock, du hard rock, comme ils disent, et on confisquait. Et on donnait ça à l'abbé Berthaud, qui était directeur de l'école, et, ou alors on le faisait nous-mêmes dans certains cas. Le samedi ou le vendredi soir, les parents venaient récupérer le gamin, qui avait 16-17 ans. Et donc, l'abbé Berthaud, moi-même, enfin le prêtre qui était concerné, allait voir les parents, disait, écoutez, voilà ce que je viens de prendre cette semaine. Le gamin, écoutez, voilà ce genre de musique qu'il écoute. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors le père regardait la pochette du CD. Il dit, ah oui, oui, c'est un véritable scandale. Vous avez raison, je vais dire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Et puis on voyait après, ben ça j'ai vu, hein, on voyait après le fils repartir avec ses parents pour aller vers la voiture. Puis on voyait déjà le père qui discrètement ou pas discrètement du tout rendait le CD au gamin en disant la prochaine fois te fais pas piquer. Ça, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps comme ça. Donc, est-ce que vous vous rendez compte ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant, d'un adolescent de 16-17 ans qui est en pleine révolte naturellement? Eh bien, il va traduire, je peux continuer à désobéir, je peux continuer à en faire que ma tête, parce que mes parents ne font pas confiance en l'autorité de l'école. Et les gamins comme ça, il y en a plein. Et résultat des courses, ça en fait des révolutionnaires. Et lorsque les gamins deviennent des adultes, eh bien, ils sont incapables d'élever leurs enfants, parce qu'évidemment, ayant été élevés comme ça, ils vont avoir tendance à reproduire ça avec leurs propres enfants, et à chaque fois, on les gringole un peu plus, résultat des courses, les enfants sont des petits révolutionnaires, et actuellement, on le voit. Et c'est ça qu'il faut impérativement comprendre, c'est très important pour les fiancés, c'est que beaucoup de nos fidèles n'arrivent pas à comprendre ça. C'est que la révolution, c'est pas simplement, si vous voulez, les anarchistes qui vont brûler les églises. C'est pas que ça, le révolutionnaire. Ça, je dirais, c'est ce qu'on voit en surface. En dehors, en dessous, il y a tout un comportement qui est basé sur la révolte. N'oubliez pas que la désobéissance, c'est quoi? C'est non serviable de Lucifer. Je ne servirai pas. Et la révolution va se traduire, si vous voulez, c'est ça qu'il faut absolument comprendre, c'est tellement difficile à faire comprendre aux futurs parents. C'est que la révolution, c'est comme une hydre à plusieurs têtes. Une hydre, c'est un monstre mythologique, donc il y avait un peu comme une pieuvre à plusieurs tentacules. Eh bien, ça sert strictement à rien de couper une tête de l'hydre tant qu'on n'a pas attaqué le cœur. Parce que non seulement, dès qu'on coupe une tête, la tête va repousser, et 5 minutes après, on a de nouveau le même pierre en face de nous, il faut attaquer au cœur. Donc, beaucoup de parents pensent qu'à partir du moment où ils envoient leurs enfants à la messe traditionnelle le dimanche, que les enfants ont eu une formation traditionnelle en matière de catéchisme, par exemple, le catéchisme de Saint-Pierre, le catéchisme du Concile de Trente, ils ont rempli leur devoir d'État, basta, ça suffit, le bon Dieu ne leur demande pas plus. Ils ne réalisent absolument pas que le bon Dieu leur demande d'être contre-révolutionnaire, pas seulement avec la messe du dimanche, mais aussi avec toutes les activités pratiques de la journée. Il faut être aussi contre-révolutionnaire dans la musique, dans l'art, dans la façon de s'habiller, la façon de se comporter, etc. Donc, si vous laissez une des têtes libre, vous pouvez recouper toutes les autres têtes, du moment qu'il en reste encore une, l'hydre est encore vivante, et va pouvoir de nouveau tout régenter. Par exemple, j'ai connu des familles dans lesquelles, au niveau religieux, ça tenait bien la route, mais par exemple, au niveau par exemple, de l'art et de la musique, ça ne tenait pas du tout la route. Parce que les enfants, les parents laissaient les enfants écouter n'importe quoi comme musique, c'était même plus de la musique, c'était du bruit. Ils laissaient les enfants faire n'importe quoi. Ils laissaient les enfants être révolutionnaires en matière de musique. Eh bien, la révolution entrait par la musique et par la musique entrait dans le cœur des enfants. Et c'est pareil pour l'habillement. Beaucoup de parents ont bien éduqué leurs enfants sur le plan religieux, mais sont incapables d'imposer à leurs enfants une discipline pour qu'ils s'habillent correctement, comme les jeunes filles catholiques, par exemple, pour les jeunes filles. Et n'oubliez pas, ça qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'il y a un double devoir dans tout ce domaine-là. Premier devoir, le devoir d'instruire, c'est-à-dire instruire vos enfants pour qu'ils écoutent de la bonne musique, donc leur faire aimer la bonne musique, etc. Et deuxièmement, le deuxième devoir, c'est le premier devoir, c'est un devoir d'instruction. Le deuxième devoir, qui est bien plus difficile, c'est d'obtenir qu'ils comprennent pourquoi vous le faites. Vous pouvez enseigner tout le catéchisme à vos enfants, vous voulez, vous pouvez leur donner 3 heures de catéchisme par jour. La question finale qui va se poser et qui va tout régler, c'est est-ce que votre enfant aime le catéchisme? Vous pouvez imposer la messe traditionnelle à vos enfants. Vous pouvez faire des centaines de kilomètres pour arriver à imposer, la messe traditionnelle à vos enfants. Mais est-ce que votre enfant, en fin de course, quand il arrive à l'âge adulte, qu'il va quitter la maison, est-ce qu'il aime la messe? Est-ce qu'il a compris l'importance de la messe? Et s'il lui manque l'amour de la messe, c'est fini. Et je donne souvent comme exemple, pour aider les gens à comprendre ça, je prends toujours un exemple, toujours le même. Je dis, regardez ce qui s'est passé autour des années 60. Autour des années, prenez par exemple, juste la veille du concile. 62, le concile a commencé en 62. En 62, il n'y avait qu'une seule messe dans l'église, la messe traditionnelle, d'accord? Parce qu'il y avait le chargé en 69. Tous les prêtres étaient encore en soutane, d'accord? Ils disaient tous encore le bréviaire traditionnel en latin. En 65, donc 3 ans plus tard, pratiquement il n'y a plus de prêtres en soutane, la nouvelle messe va arriver en 69. Tous les prêtres, à quelques exceptions près, vont prendre la nouvelle messe. Donc plus de soutane, plus de messe, plus de bravière. Quelle est la raison derrière? Il faut chercher la raison derrière. C'est quoi la raison?
Parce qu'ils n'aimaient pas...
Exactement. Ils disaient la messe tous les jours, ils n'avaient pas d'amour pour leur messe. Ils disaient la bravière tous les jours, pas d'amour pour leur bravière. Ils mettaient la soutane tous les jours parce qu'ils étaient obligés, ils n'avaient pas d'amour pour la soutane. Donc le jour où les obligations ont sauté, tout a volé. Mais faites gaffe, ne pas faire la même chose avec vos enfants. Si vous donnez pas à vos enfants l'amour de la discipline, l'amour du travail bien fait, l'amour de la valeur du travail, l'amour de, si vous voulez, de s'habiller correctement, etc. S'ils le font par simple obligation, dès qu'on enlève l'obligation, ils partent faire n'importe quoi. Et c'est là où on juge l'éducation. Et c'est la catastrophe des familles est arrivée là. Et ça veut dire quoi? Pour revenir à ce que je vous disais au début de ces petits cours, c'est que la transmission n'a pas été faite. Ça ne suffit pas de transmettre du catéchisme aux enfants. Il faut leur faire aimer le catéchisme. Ça, j'avoue que Mgr Lefebvre a fait du bon travail de ce côté-là. Nous faisons aimer notre messe, nous faisons aimer le bréviaire, nous faisons aimer la soutane. C'est très intéressant de voir qu'au séminaire, je me rappelle quand j'y étais, on avait un certain nombre de séminaristes qui n'étaient pas attachés à leur soutane. Il y avait peu d'attachement à leur soutane. Ils l'enlevaient pour un oui ou pour un non, on avait l'impression que la soutane leur brûlait les fesses. Dès qu'ils pouvaient, ils l'enlevaient. Eh bien, comme par hasard, ce sont ces séminaristes-là qu'on a trouvés à la Fondation, par exemple, ou dans les débuts de la Fraternité Saint-Pierre. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui manquait sur le plan intellectuel. Oui, donc, quand on voit le triple devoir, magistère, ministère, gouvernement, il faut voir tout ça. Ce n'est pas simplement un enseignement purement extérieur qu'il faut donner. Prenons un exemple. Vous apprenez à votre enfant à lire. C'est une chose. Faire que votre enfant sait lire. C'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut donner à votre enfant l'amour de la lecture. Et ça ne suffit toujours pas. Il faut que votre enfant puisse, quand il devient un adulte, lire les bonnes choses. Donc il va lui donner un jugement pour qu'il puisse distinguer entre les bonnes lectures et les mauvaises lectures. Donc votre travail ne s'arrête pas, contrairement à ce que beaucoup de parents pensent. Simplement, j'ai appris à mon enfant à lire. Basta, ça suffit, j'ai rempli mon devoir d'état. Maintenant, je peux aller mettre des pieds en éventail avec un verre de bière entre les pattes. Non, ça ne suffit pas. Vous avez rempli la première étape. Il faut la deuxième étape, c'est-à-dire donner à vos enfants de bons livres. Et troisième étape, leur apprendre à distinguer par un verre. Et quand on voit, et c'est très intéressant de voir ça, surtout avant le concile. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui voient le problème, et que même, vous voyez par exemple dans la fraternité, quand j'y étais, les discussions de marchands de tapis qu'il y avait entre prêtres, beaucoup de prêtres disaient la seule chose qu'il faut, c'est refaire des prêtres comme les années 60, comme les prêtres des années 60. Ils refabriquaient des prêtres des années 60, donc il y avait la soutane comme les prêtres des années 60, qui avait le bréviaire en latin comme les années 60, qui avait encore la messe traditionnelle comme les années 60. Seulement, ce qu'ils n'avaient pas compris, ces séminaristes-là, c'est que les prêtres des années 60 sont les prêtres qu'ont fait Vatican II. Et Vatican II n'est pas sorti comme ça, comme des champignons après la pluie. Vatican II est sorti, pourquoi? Parce que les gens qui étaient là, qui auraient dû faire barrage à ces idées, étaient en fait d'accord avec ces idées depuis bien longtemps. Et quand les gens me disent, mais c'est pas un peu exagéré, je leur donne toujours la date de 1907. 1907, c'est quoi? C'est la date de parution encyclique Pachandi. Saint-Pédis, condamnation du modernisme. Il condamne le modernisme, je dirais, 50 ans avec le modernisme soit visible. Quel était le génie de Saint-Pédis? Le génie de Saint-Pédis, c'est que Saint-Pédis avait compris que le modernisme était là, il était déjà dans le cœur de l'Église, et qu'il attendait qu'une seule chose, c'est que c'était la possibilité de passer au grand public, passer à l'air libre. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc tant qu'il y a eu des papes qui ont fait leur travail de pape, c'est-à-dire jusqu'à la mort du pape Pie XII plus ou moins, le modernisme, il était à fleur de terre, et comme un champignon qui attend de germer. Et dès que le pape Pie XII est mort en 58, tout de suite c'était l'arrivée de Jean XXIII, tous les antipapes qui ont suivi, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, toute la révolution est passée. Ils ont tout détruit. Mais le verre était déjà dans le fruit. Donc, en matière d'éducation, vous avez un devoir grave de former vos enfants. Et si vous voulez bien former vos enfants, il faut sérieusement parler entre vous pendant la préparation au mariage. Ça, je pense que certainement les discussions les plus importantes que les fiancés doivent avoir, c'est au niveau de l'éducation des enfants. Et c'est là où la maman a un rôle capital. Hein, parce que c'est la maman dans la pratique qui va s'occuper des petits. Donc, je vous ai dit qu'un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Donc c'est le rôle de la mère, parce que dans la pratique, jusqu'à 5 ans, le papa ne voit pas souvent son enfant. Hein. Surtout s'il travaille, il ne peut pas rentrer du travail parfois en 6-7 heures le soir, 7h30 le soir, voire même à 8 heures, 9 fois sur 10, les bébés à 8 heures, ils sont bougés. Hein. Donc le papa, il va voir son enfant quoi, le week-end, c'est tout. Mais tout ça, c'est très important. Donc il faut, on pourrait en dire beaucoup plus, je n'ai pas le temps, mais... Je crois que ça me semble très très important. Donc le gouvernement, c'est ça, c'est apprendre aux enfants l'obéissance, mais ça ne suffit pas, faire aimer à vos enfants l'obéissance. Il faut que l'obéissance devienne quelque chose que les enfants qui deviennent des adultes aient compris l'obéissance est absolument nécessaire pour faire une maison qui tient la route. C'est les fondations de la maison. On a l'impression que les fondations, c'est pas grand chose parce qu'on ne les voit pas, c'est sous la maison. Mais si vous construisez une maison sans fondation, c'est cool. Après, c'est la même chose pour le ministère et le gouvernement. Dans le ministère, encore une fois, c'est la sanctification. Le devoir des parents de sanctifier leurs enfants. Donc, de préparer leurs enfants à recevoir les sacrements, ça c'est le devoir surtout de la maman, parce que le papa n'a pas toujours le temps de son travail. Donc, préparer les enfants à recevoir les sacrements. De confession d'abord, et ensuite de communion. Tombez pas dans le panneau qui consiste à attendre beaucoup trop longtemps que les enfants se confessent. Ça, c'est un conseil à vous donner, c'est pousser vos enfants à se confesser plusieurs années, commencer à se confesser, parfois un an, parfois même deux ans avant qu'ils fassent sa première communion. L'enfant capable de pécher, l'enfant comprend que c'est un péché, l'enfant comprend qu'il a offensé le bon Dieu, il doit se confesser, même s'il a 4 ans. Et dimanche prochain... je donne la première communion à une petite qui a 4 ans et demi. Hein, j'ai la petite Adélaïde d'Ostensaken, elle a 4 ans et demi. La petite est bien été éduquée par la famille, et résultat des courses, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait. Et ça fait déjà presque, je ne sais pas combien, ça fait 6 mois que je la confesse. Elle est haute comme 3 pommes, mais elle est 3 pommes et demi, vraiment petite. Hein. Et puis. Elle a compris l'importance de la confession. Donc un enfant qui a compris l'importance de la confession est un enfant qui a compris l'importance de la communion. À ce moment-là, ils peuvent communier très tôt. aucune raison de faire attendre un enfant. Et pas que c'est le pape Saint Pie X qui a rendu justement ses lettres de noblesse à la communion des enfants. Lisez, si vous pouvez mettre la main dessus, il a été réédité par l'abbé Belmont, le livre. Lisez dans le livre L'éducation à la pureté du squelette, il y a tout un passage sur la communion des petits. Et Mme Zécolette donne toute une série d'enfants, d'exemple avec Herman Wins, avec Nelly du Dieu Saint, petite Irlandaise de 3 ans, je crois qu'elle avait 3 ans, qui est morte, on va dire, c'était 4 ou 5 ans, et qui a fait sa première communion à tout 3 ans. Parce que elle savait très bien qu'elle allait mourir, et les mères étaient dans un orphelinat tenu par des sœurs, les sœurs avaient vu un désir de communion chez elles. Ma mère se peut à écrire en disant... La petite s'était préparée à la première communion à 3 ans. Hein. Et quand elle a communié pour la première fois, mes soeurs ont dit qu'elle est devenue toute rose et en immobilité complète pendant une demi-journée. En action de grâce. Après avoir reçu la Sainte Communion. À 3 ans. Je ne sais plus quel âge elle avait quand elle est morte. Quelque chose comme 4 ans, peut-être 4 ans et demi. Et Saint-Pédis avait prophétisé, des saints viendront parmi les enfants. Vous voyez ? Et ça, c'est les parents. Ça, c'est le devoir qu'on appelle le devoir de ministère qui correspond au devoir de formation intellectuelle et formation spirituelle. Donc, faire aimer le catéchisme aux enfants, faire aimer la confession et la communion aux enfants, et surtout faire aimer la Sainte Messe. Il y a des enfants qui n'aiment pas la Sainte Messe, vous savez, quelque chose qui manque. Hein. Moi, je voyais ça dans la fraternité, mais quand j'étais dans la fraternité, c'était presque partout. C'était vraiment l'exception qui confirmait la règle quand il n'y avait pas le cas. L'immense majorité des enfants de 7-8 ans, ou de 10 ans même, allaient à la messe le dimanche par pure obligation. Et pratiquement, ils n'avaient qu'une envie, c'était de sortir en courant. Quoi. La messe s'en fichait complètement. Ça vient d'où ? Les enfants, les parents n'ont pas transmis. On n'a pas su transmettre l'amour de la messe. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le devoir de ministère, c'est le devoir de sanctification des parents. Encore une fois, il ne faut pas viser le bout de son nez, il faut aller voir la génération suivante. Dire, qu'est-ce que je dois faire dans l'éducation que je donne à mes enfants pour former mes enfants, pour qu'ils puissent garder cet amour et transmettre à vos enfants. Le problème, c'est qu'actuellement, qu'est-ce qu'on voit ? À chaque génération qui passe, on descend un peu. Il faudrait que ce soit l'inverse. Avec chaque nouvelle génération qui arrive, on monte un peu. Et c'est l'inverse qui arrive. On voit très bien, souvent... Nos arrière-grands-parents avaient une foi très forte, les grands-parents avaient une foi un peu moins forte, les parents une foi encore moins forte, et les enfants une foi encore plus faible, et les petits-enfants, c'est fini, terminé, il n'y a plus rien. On devrait avoir un résultat inverse. C'est-à-dire que plus on progresse dans le temps, plus il faudrait voir une augmentation de cet amour. Est-ce qu'on le voit ? Et c'est là qu'il se doit faire. Troisième degré, troisième devoir, le magistère. Le magistère, c'est l'enseignant. L'enseignement doctrinal, donc faire aimer l'étude aux enfants. Monseigneur Lefebvre, une formée qui me citait tout le temps au séminaire, il nous disait « Malheur au prêtre qui a perdu l'amour de la piété, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. » Donc, des choses capitales, apprendre aux enfants à prier et apprendre aux enfants à étudier. Donc, leur apprendre l'usage normal de leur intelligence, pour qu'ils ne perdent pas leur temps avec des... si vous voulez, l'étude de choses secondaires. Leur apprendre à étudier, leur apprendre à lire. Là, c'est plutôt le rôle du père, à mon avis, surtout pour les adolescents, d'être sûr qu'ils ne perdent pas leur temps avec des littératures de seconde qualité et qu'ils aillent simplement au meilleur. Le vieux père Barrière, il nous disait tout le temps au séminaire, laissez tomber le bon, laissez tomber le très bon, allez uniquement à l'excellence. Et c'est vrai. Vous voyez ? Donc, former les enfants dès qu'ils sont capables. Donc, au début, ça passe par la formation de la lecture pour les petits de 6-7 ans. Donc, on voit très bien ça dans les familles. Les petites de 6-7 ans qui commencent déjà par l'intermédiaire de la maman à lire les bons bouquins. Alors là, il faut utiliser d'excellents petits livres comme par exemple les livres de la comtesse de Ségur, ces éditions-là, qui donnent une bonne formation catholique des enfants dans la pratique. Mais après... Dès que les enfants grandissent et deviennent des adolescents, je pense qu'il faut les former déjà à lire des choses de valeur. Par exemple, leur donner l'amour des grands auteurs anti-libéraux du 19e siècle. C'est capital. C'est là où vous allez former la conviction des enfants. faut bien convaincre les enfants. Ça, c'est très rare. Maintenant, on voit des parents qui déjà pensent au futur dans ce domaine-là. Vous voyez, un enfant, par exemple, je donne un exemple. L'importance, par exemple, de connaître l'histoire de l'Église. Parce que l'histoire de l'Église, celui qui possède le passé, il possède le présent, il possédera le futur. Donc, savoir comment l'Église a réagi pendant 20 siècles. Donc, faire lire à vos enfants une bonne histoire de l'Église. Bon, c'est pas... Moi, j'ai lu tout d'Arras quand j'avais 50 ans, mais j'ai eu du mal, hein. Parce qu'il faut que je m'impose pendant 2 ans, 1 heure de lecture tous les jours. 50 pages par jour, j'ai pris. Ça m'a pris 2 ans pour lire les 42 volumes. Mais si votre gamin, il commence quand il a 15 ans, à 15 ans, un adolescent est capable de lire d'Arras. Donc, vous donnez les premiers volumes de d'Arras à 15 ans à votre enfant... Et vous donnez par exemple un programme, en disant voilà, il faut être capable de lire par exemple un volume par mois, ce qui est possible. Des volumes de 400 pages, en un mois, ça se lit, même pour un enfant, même pour un adolescent de 15 ans. Imaginez un adolescent de 15 ans qui commence à lire un volume de Darras par mois. Ben, en 4 ans, il a lu tout Darras. Ben, je vous assure qu'un gamin qui arrive, il a commencé à 15 ans, il arrive à 19 ans, donc à la porte de l'âge d'adulte, qui a lu déjà tout Darras, il a déjà une vision. De l'esprit d'Église qui est extraordinaire. Même s'il n'a pas tout retenu, parce qu'on ne veut pas tout retenir. Et puis, dès 16-17 ans, il faut lire le cas par cas, mais les enfants sont capables de lire du Monseigneur Gaume, du Monseigneur de Ségur, du Monseigneur de Lassus, du Monseigneur Join, tous ces géants de doctrine qui sont des très très bons auteurs, qui ont modelé une jeunesse catholique au 19e siècle. C'est tous des auteurs de la fin du 19e siècle. Deuxième moitié du 19e, début 20e pour Mgr de Lassus. Bon, quelqu'un comme Mgr Gaume a fait un travail énorme. Donc, je ne vous laissais pas embarquer dans les inepties de certains frères qui prétendent que Mgr Gaume était un mauvais auteur parce que c'était un fidéiste, tu parles de n'importe quoi. Ces auteurs ont été soutenus, supportés, encouragés par des gens comme surtout le Papy Neuf, comme les grands auteurs de l'époque, quoi. Donc faites attention à ça et donnez ça à vos enfants. Voyez, donc donnez à vos enfants aussi l'étude, par exemple, ça c'est plutôt pour les plus âgés, 17-18 ans. 16-17 ans, ils peuvent lire, à partir de 15 ans, ils peuvent lire Darras, déjà. Dès qu'ils arrivent à 16-17 ans, ils peuvent déjà commencer avec les grands auteurs antilibéraux, par exemple Mgr Gaume, Mgr Ségur, surtout. Et dès qu'ils arrivent à 18 ans, ils peuvent par exemple lire l'abbé Barbier. Par exemple, il y a un livre fondamental de l'abbé Barbier, qui c'est l'histoire du catholicisme libéral en France, depuis 1870 jusqu'à l'avènement de la fin de Léon XIII, l'avènement de Saint-Pédis. Eh bien, je vous assure qu'un jeune adulte, ça c'est plutôt pour l'arrivée à l'âge adulte, 17-18 ans, un jeune adulte de 18 ans qui a lu l'histoire du catholicisme libéral, bien sûr, c'est pour intellectuel, vous le formez. Hein. Moi, j'ai attendu d'avoir... J'ai commencé au séminaire de lire Barbier, j'ai pour le temps, j'ai lu un volume, c'est quatre gros volumes en A3, vraiment, les petits caractères, c'est pas évident. Et j'ai fini de lire ça quand j'avais presque 50 ans, et je regrette bien, parce que je suis sûr que si j'avais lu ça, quand j'avais, avant d'entrer au séminaire, voire même au séminaire, ça m'aurait énormément aidé. Mais donc là, il y a un devoir grave des parents de former leurs enfants. Alors, bon, j'ai pas le temps de tout dire, mais... Je crois que les fiancés doivent préparer le terrain et se rendre compte, attention, nous allons devenir très vite père de famille, très vite il va falloir former l'intelligence de nos enfants, former l'âme de nos enfants, former leur intelligence par la piété, former l'âme par l'étude. Donc, il faut donner ces deux choses, l'amour de la piété, l'amour de l'étude. Vous n'êtes pas capable d'avoir donné à vos enfants l'amour de la piété, l'amour de l'étude, c'est tout ce qui manque. D'accord ? Bon, on va finir par une petite prière. Et on se voit à 2h30 cet après-midi, 2h30 à 5h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.